It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.
Donc voilà, après cette petite parenthèse avec Michel Kelimenis, un direct du Festival international du documentaire, 17e édition, au Palais du Pharo, 125 films programmés, pardon, je suis en train de distribuer les micros, 125 films programmés au lieu de 80 l'année dernière, 8 prix, 7 programmations complémentaires, dont 3 rétrospectives, 5 expositions d'art contemporain, des projections à l'Alcazar avec le Festival de Marseille, 30 films inédits en France dans la compétition internationale, 18 pays représentés. Ça commence aujourd'hui, donc jusqu'à mardi prochain au Palais du Pharo. Jean-Pierre Rem, Cyril Nera, bonjour.
Rebonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Cyril Nera, on l'a déjà entendu il y a 9h30 nous dire quelques mots rapides de cette première journée de programmation. Jean-Pierre Rem, le Palais du Pharo pour le Festival international du documentaire, quel est l'importance de ce lieu?
Bah écoutez, je crois que c'est notre présidente Aurélie Filippetti qui écrit très justement dans l'ouverture du premier journal du quotidien que c'est à la fois tourné vers le large et vers la ville, que c'est un site magnifique, je crois, qui va permettre aux spectateurs de goûter le festival d'une toute autre façon que la criée. Et voilà, pour nous, c'est une chose très, très satisfaisante, oui.
Alors, on devait être aussi en compagnie d'Emmanuel Burdeau, des Cahiers du cinéma, mais il sera à Marseille qu'aux alentours de midi. Donc, on va explorer l'ensemble de cette programmation, de cette 17e édition avec Jean-Pierre M et Cyril Nera. Peut-être, avant de commencer, deux mots sur... on est sous l'affiche de cette 17e édition.
Oui.
Jean-Pierre M, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de...
Bien sûr. C'est une image qui provient en réalité d'un film, d'une œuvre d'art sous forme de film d'un artiste catalan qui s'appelle Jordi Colomer, et qui est par ailleurs présenté dans une exposition aux ateliers de la ville d'artistes de Marseille, qui s'appelle Ça s'ouvre pas, une exposition qui dure jusqu'en juillet. C'est un homme, en fait, qui porte des maquettes de bâtiments dans différentes villes. Celle qui fait le visuel, c'est Bucarest, mais il y a aussi Sao Paulo, il y a aussi le Japon, Tokyo, un certain nombre de villes dans le monde. Et à chaque fois, ce personnage brandit sur un pic la maquette en carton des bâtiments utopiques qui sont derrière lui. Alors ça nous paraissait une image juste, parce qu'au fond c'est comme le documentaire, hein, c'est à la fois la copie de ce qui nous entoure et en même temps fait avec les moyens du bord, et puis selon les règles de perspective, au fond quelquefois le bâtiment peut paraître avoir la même taille que la maquette ou inversement. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui porte ça comme on pourrait brandir en fait des slogans dans une manifestation, et en même temps c'est étrange parce qu'il est tout seul. Donc cette image, elle est en même temps très, très ouverte, et elle est à l'image de ce qu'on souhaite au festival, c'est-à-dire accueillir les interprétations, accueillir les différents aspects de la réalité.
On dirait une image aussi de l'instabilité et de la précarité, non? Un peu,
de l'instabilité?
Oui.
Qui n'est pas instable aujourd'hui, vous montrez-le-moi.
Vous commencez votre édito par « Pauvres images ».
Oui.
Vous trouvez qu'on maltraite les images aujourd'hui?
Oh oui, il y a beaucoup d'images qui sont maltraitées, mais on est aussi maltraité par les images. Quand je dis « pauvres images », ça voulait dire qu'au fond, ce qui compte dans les images, ce n'est pas leur gloire. C'est au contraire leur fragilité, leur pauvreté. C'est en quoi elles ont quelque chose à nous dire ou en quoi, comme je dis un peu plus loin dans le texte, on partage quelque chose. Donc, pauvres images, ça voulait pas dire que je plaignais les images, ça voulait dire que je rappelais que des images, c'est finalement peu de choses.
Peut-être dire deux mots du film d'ouverture ce soir, VHS Kalusha.
Oui, deux mots. VHS, c'est un film tunisien qui raconte, en fait, qui suit un personnage qui, par ailleurs, est peintre en bâtiment, qui s'appelle Kalusha, et qui, en dehors de ce métier, dans une ville en Tunisie, a une passion qui est le cinéma. Mais il le fait comme le mot VHS l'indique, il le fait à sa mesure, c'est-à-dire comme un amateur, mais un amateur total, puisqu'il est à la fois réalisateur, acteur, producteur, distributeur. Donc c'est un film qui parle à la fois de l'amour du cinéma, mais cet amour-là se fait dans un contexte pour le coup précaire, pour le coup fragile. J'espère que les spectateurs... Je vais pas tout dévoiler, Marc, et... J'espère.
D'accord, mais c'était juste pour signaler cette cérémonie d'ouverture ce soir avec ce film. Commençons par la compétition internationale. Je rappelais tout à l'heure qu'il y avait une trentaine de films de 18 pays différents. Et on va avoir le plaisir de retrouver là des cinéastes que le Festival de Marseille a amenés jusqu'à nous depuis plusieurs années et de retrouver leurs nouveaux travaux, comme Chantal Ackerman, Amir Mohamad, Lalit Vachani, Manon de Brouwer, Valérie Jouve. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des nouveaux travaux de ces quelques cinéastes, par exemple?
Oui, c'est à chaque fois très, très, très particulier. Enfin, il est clair que Chantal Ackerman, elle mène une œuvre de longue date. Donc, il y a des éléments qu'on va retrouver. Simplement, là, c'est un film qu'elle tourne en Israël avec la difficulté pour elle de faire des images de ce pays et que c'est ce film qui témoigne à la fois de la difficulté, je pense, de son être juif et de son être juif dans ce pays. Donc c'est un rapport entre le dedans et le dehors, et tout ça passe par ce qu'en cinéma on appelle un cadre. Donc voilà, c'est un film très... très très sobre et très très poignant en même temps. Manon Debord, on avait montré d'elle le film sur Sylvia, voilà, sur Sylvia Christel Paris, qui était un portrait de femme libre, dit Manon. Et là, elle continue puisque c'est le portrait d'une femme brésilienne qui a été emprisonnée au Brésil et puis ensuite qui s'est exilée à Paris, a fait deux rencontres très importantes. En les personnes de Félix Guattari et Gilles Deleuze. Ça a changé sa vie. Et plutôt que de rester à Paris comme d'autres exilés l'ont fait, elle a décidé de rapporter ses trésors intellectuels, ses trésors d'expérience vitale au Brésil. Donc c'est le portrait filmé d'une biographie par l'intéressé. Et c'est une femme, et c'est quelque chose que Manon... est en train de poursuivre actuellement d'ailleurs au Maroc en allant filmer quelques femmes marocaines.
C'est un film qui s'appelle Surface Sensible et qui concourt aussi pour le prix son. Il y a une bande son magnifique.
Et d'ailleurs, Manon Debord avait eu le prix son pour Sylvia Christel.
Et donc on vous proposera d'écouter cette bande son dans son intégralité cet après-midi à 15h sur les ondes de la Grenouille. Autre connaissance, Valérie Jouve, après Grand Littoral, Time Working Around Rotterdam.
Oui, on est très fiers parce que ce film donc a été fait à Rotterdam, commandé par la ville de Rotterdam, et Valérie a accepté souhaité plutôt nous le confier en première mondiale. C'est un film qui fait écho pour moi à Grand Littoral, hein, qui avait été montré là aussi en première mondiale à Marseille. Simplement, entre la grande surface aux abords de Marseille et puis une ville aux lignes définies et vue d'un train en Hollande, il y a un monde. Alors, c'est toujours le regard de Valérie, évidemment, sa façon d'articuler au fond différents plans. Mais il y a un changement de décor radical.
Il sera projeté quand celui-là? Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Je vois que vous...
Les films sont projetés.
C'est assez compliqué. Il y a plus de 120 films.
Trois fois. Il y a en effet 120 films. Mais je pense que si vous voulez venir au festival, je pense que ce qui est important, c'est que ce n'est que 6 jours. Hein. Et que je crois que la façon idéale, à mon avis, de pratiquer cette manifestation, c'est l'immersion complète. Et de se dire, par exemple, au fond, de profiter aussi de la variété des formats, puisque le film de Valérie doit faire, je pense, une trentaine de minutes, et d'enchaîner, à la fois, vous soulignez la diversité des pays, et de passer donc de Rotterdam en Inde, de Chine dans le pays de Caux. Et donc, voilà, chaque film compétitif passe trois fois. Et je crois que l'idée, c'est de se promener dans le festival, dans cette espèce de balade sur la planète. Et donc, j'ai calculé que, si vous voulez, au maximum, un spectateur peut voir 54 films s'il accepte de faire un marathon. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de pratiquer la manifestation, c'est d'être un marathonien des images. Et vous n'en retirerez sur les 120 que 54. Alors il faut profiter, il me semble, de ce luxe.
Et c'est vrai qu'on peut confirmer ça à Radio Grenouille, en ayant été immergé complètement l'année dernière dans le festival et en reconduisant ceci cette année. Cette année, on verra, mais vu le plaisir qu'on a eu l'année dernière à travailler dans le cadre de ces festivals et à faire des marathons de films, on ne peut que agréer à ce que vient de dire Jean-Pierre Rem. Alors, on ne va pas faire tous les cinéastes que vous avez invités qui sont de nouveau dans la compétition internationale, mais quand même un dernier mot sur le dernier film d'Eduardo Coutinho, qui était président de la compétition internationale l'année dernière.
Tout à fait. Mais c'est un film... c'est toujours embarrassant de parler des films et des films documentaires, parce qu'au fond, c'est comme si il s'agissait de raconter une histoire, alors qu'encore une fois, c'est comme une rencontre avec des gens, une rencontre réelle. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Il va dans le nord-est du Brésil et il va à la rencontre d'une série de personnes âgées qui apparemment sont, on peut penser que c'est des gens sans culture, qui sont dans une grande démunition économique, et en fait, en les écoutant parler, on se rend compte ils sont les témoins d'une espèce de sagesse très ancienne et qui leur donne une grande sérénité, une grande beauté aussi. Et au fond, ce monde qu'on croit relégué est un monde tout d'un coup qui révèle une complexité et beaucoup d'humour. Voilà. Donc, Eduardo, c'est Coutinho. On avait montré, non seulement il était président de la compétition internationale l'année dernière, mais on avait montré un film très, très beau qu'il avait tourné à Sao Paulo qui s'appelait Edificio Master et qui était une série d'entretiens dans les différents appartements. Donc là, c'était la ville. Cette fois-ci, c'est la campagne la plus désolée.
Alors, on a parlé de quelques cinéastes que le festival nous a invités à fréquenter depuis quelques années. Je voulais juste qu'on dise un mot de quelqu'un qui est dans cette compétition internationale, et il me semble qu'on n'a jamais vu son travail sur Marseille, c'est Alan Sekula.
Oui, Alan Sekula, il est surtout connu, il est mondialement connu en tant que ce qu'on appelle photographe plasticien, hein, puisque la dernière Documenta... Il avait un nombre d'œuvres présentes de façon extrêmement conséquente, et de ce que je crois savoir, il sera également présent à la prochaine Documenta qui aura lieu l'été prochain. C'est quelqu'un qui, on va dire, a décidé de faire un usage documentaire et politique de la photographie. Et là, il se lance dans un film qui essaye de décrire l'importance de la mer. La mer, dit-il, au fond, est le refoulé du néo-capitalisme, puisque la mer est comme le lieu où le commerce passait avant, et c'est comme si aujourd'hui, du fait que le commerce est moins visiblement lié à la mer, la mer devenait au fond l'endroit du refoulé. Le refoulé notamment de la pollution, évidemment, les différents épisodes, et il en suit un sur les côtes espagnoles d'un navire qui lâche justement tout son poison, mais aussi dans l'imaginaire général. Voilà, donc c'est un film, on va dire, qui pratique l'intelligence, qui a décidé de pratiquer l'intelligence des images. Ça existe.
Alors Cyril Nira, on va parler de cet écran parallèle, Toutes les nuits en 6 jours. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Vertigo, une revue de cinéma. Comment on va, Vertigo ?
Très bien. Un numéro vient de sortir il y a un mois, un numéro consacré principalement à la question du silence, à l'enjeu du silence dans les films, fiction comme documentaire. Donc la revue se porte bien, elle a un nouvel éditeur.
Alors le silence dans les films, c'est un peu comme la nuit dans les films ?
C'est juste, ce sont deux questions effectivement liées.
Les limites du genre, donc, je crois que c'est un thème que vous explorez depuis longtemps. Vos précédentes programmations au Festival du documentaire étaient autour de la poésie, je crois. Ou
de la pensée, l'an dernier.
De la pensée, oui.
Comment voir la pensée. C'est pas tant une question de limite du genre, de fait oui, mais le point de départ c'est plutôt l'idée de contraintes données au film. Contraintes de représenter l'invisible qui était la pensée l'an dernier. Contraintes cette année de voir quand on n'y voit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on voit dans le noir ? Comment les films travaillent-ils la nuit et travaillent-ils avec une image sous-exposée, une image dont la puissance visible serait raréfiée ?
Alors, ces six nuits s'appellent Going Underground, Odyssée au pluriel de l'espace, Contre l'oubli, Après la catastrophe, À l'aveugle, Utopie sonore et Insomnie, qui sera une nuit blanche. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces nuits ?
Oui, Going Underground, c'est très simple, c'est l'idée d'une exploration du monde souterrain, des entrailles, donc d'un monde caché. C'est le programme qui va ouvrir cet écran parallèle aujourd'hui à 15h45, dans une démarche qui est celle qui domine ces écrans. C'est l'idée vraiment d'essayer de confronter, de rapprocher des films inédits, donc des films contemporains inédits, et des films du passé, souvent des films rares, très difficiles à voir, ou parfois des classiques. En tout cas, d'essayer de produire ces chocs et ces rencontres. Par exemple, aujourd'hui, donc, Going Underground, on verra à la fois un film de 67 de Ronald Namet, qui était accompagné de Jonas Mekas. C'est un film qui s'appelle Exploding Plastic Inevitable, qui est une espèce de captation expérimentale d'une performance organisée par Andy Warhol avec le Velvet Underground en 67. Donc c'est un film nocturne puisqu'il se passe dans une boîte de nuit, un film qui travaille sur une espèce de déformation des corps dansants par les jeux de lumière et de couleurs. Et à ce film fera suite un film contemporain de Wang Wenhai, un documentaire chinois du cinéaste qui avait fait l'an dernier le très beau Floating Dust, qui avait été remarqué au festival, je crois. Le nouveau film de Wang Wenhai est consacré au milieu underground contemporain chinois, à une espèce de marge comme ça de la société chinoise qui essaye de vivre, de survivre et de travailler, de produire des œuvres dans des conditions de précarité, de marginalité.
Ce sont des séances qui durent combien de temps ?
C'est variable, entre 1h30 et 2h.
Avec à chaque fois une dizaine de films ?
Non, chaque séance, non, ce serait trop. Au maximum, il y a 4 films, entre 2 et 4 films.
Quelques mots de « Après la catastrophe » ?
Alors, Après la catastrophe, c'est l'idée assez courante que... Enfin, c'est une idée très féconde, je crois, pour l'art depuis la Seconde Guerre mondiale, que nous vivrions un temps d'après la catastrophe. Et donc, c'est l'idée d'une espèce de renaissance, de redémarrage, à partir d'un monde plus ou moins dévasté, enténébré. Et voilà, comment est-ce qu'on peut redémarrer à partir des ruines, des ténèbres c'est le même principe. Donc, cette séance sera composée de deux films. Un film contemporain inédit d'un jeune artiste français, qui travaille, lui, sur Hiroshima, sur la mémoire d'Hiroshima dans le Japon contemporain. Et l'autre film est un film très peu vu, mais d'un metteur en scène d'une autre stature, parce que c'est un film d'Andrei Sokurov, qui s'appelle « Élégie de la traversée », qui est un très beau voyage dans une Europe effectivement en ruine, enténébrée, jusqu'à une espèce de renaissance dans un musée la nuit, face à des tableaux.
Alors c'est une programmation donc qui va courir sur toute la durée du festival jusqu'au 11 juillet et qui va se clôturer par un film musical Stop Making Sense des Talking Heads. Pourquoi ?
Ah, je suis absolument ravi qu'on ait que l'équipe du film ait pu trouver une très belle copie 35 mm de ce film qui est un des sommets du film de concert. Moi j'en connais pas le plus beau en tout cas.
Réalisé par Jonathan Demme.
Jonathan Demme, connu pour être le réalisateur du Silence des agneaux par exemple, donc cinéaste de fiction, mais qui a une très grande passion pour le rock, qui a fait plusieurs documentaires sur le rock, dont le plus beau est celui-là. C'est une captation en fait de trois concerts des Talking Heads, le groupe de David Byrne. 1983. Et c'est, voilà, ça sera projeté dans l'auditorium, sur le magnifique et immense écran de l'auditorium du Pharo. Et je crois que ça peut être une très belle fête que d'assister à ce film qui, encore une fois, parce que la nuit, c'est aussi, voilà, la nuit, c'est pas, je voulais pas faire un programme triste, une espèce de déploration d'un monde nocturne. Il s'agit aussi de, la nuit, c'est aussi l'espace de la puissance, quoi, un endroit où on peut inventer des choses, voilà, peut-être vivre différemment.
Jean-Pierre.
Et de la fête, puisque.
Fête chaque soir.
Voilà.
Il y aura des fêtes chaque soir.
Radio Grenouille anime.
Dans laquelle, oui, Radio Grenouille sera largement engagée. Voilà pour cet écran parallèle toutes les nuits qu'on vous invite en 6 jours, qu'on vous invite à découvrir.
Pardon, Marc, le Stop Making Sense sera diffusé également aux variétés.
C'est demain soir à 22h, donc au Pharo Auditorium, et ensuite aux variétés.
Dimanche
soir.
C'était après la sortie de l'album Remain in Light qui a fait exploser Talking Heads, vous savez pas, avec
très bonne question. Est-ce que c'est juste avant ou juste après? Non, je crois que c'est avant Remain in Light.
C'est avant. Bon. Très bien. Un autre écran parallèle, Be With Me, on essaiera d'en dire quelques mots, mais je voudrais, avant, parce que Jean-Pierre M a un rendez-vous à 11h, et puis de toute façon, il faut qu'on rende l'antenne à 11h, qu'on dise deux mots des rétrospectives qui sont organisées autour de cinéastes. Alors, Robin Morin, qui est organisé en collaboration avec Vidéo Chronique, on en parlera largement demain, entre 18h et 19h, avec Édouard Monet et Cyril Montal, je crois.
Fabrice Montal,
qui ont travaillé sur cette rétrospective. Un cinéma qui a vraiment la patate. J'ai pu voir quelques films. Par contre, il y a deux rétrospectives. Une de Aaron Bitomsky.
Hartmut,
pardon.
Je sais, c'est difficile. Et
mais c'est moi qui écris mal quand j'écris vite. Et une autre de Joaquin Jorda, dont on voit la photo sur la table. Une intensité dans la présence assez exceptionnelle. C'est un cinéaste qui vient de disparaître.
Oui, il devait. En fait, la rétrospective de Joaquim Jorda, il faut le souligner, c'est sa première rétrospective. C'est un cinéaste qui, pour des raisons politiques, a été exilé en Italie, a commencé à faire ses premiers films, disons, avec le PCI. Et puis, une fois que Franco a quitté le pouvoir, comme vous savez, il est revenu en Espagne, il a retourné. Et puis, c'est quelqu'un qui a été scénariste, enseignant, qui a beaucoup compté pour la jeune génération espagnole. Et on a décidé donc de faire cette rétrospective. Et lui, il était extrêmement important pour lui qu'elle ait lieu. Et il se faisait, il se préparait avec beaucoup à la fois d'inquiétude et d'émotion de venir présenter toutes les séances. Et puis, le samedi 24 juin, en fait, à l'âge de 71 ans, un cancer fulgurant l'a emporté. Il est mort dans un hôpital à Barcelone. Donc, on a décidé, oui, pour la une de ce journal, de ce premier journal, de lui rendre un hommage et de le faire nous regarder.
Quel était son cinéma ? Quel est son cinéma ?
C'est un cinéma, par exemple. Il y a une chose qui est intéressante, c'est Numax Presenta et 20 años. Hein. Alors, Numax Presenta, c'est un film qu'il a fait, disons, en collaboration, presque à la demande, d'ouvriers qui avaient décidé de prendre une usine, les usines Numax, en autogestion. Et donc, le film est presque, au fond, un accompagnement technique. Les ouvriers interviennent, ils filment les innombrables réunions dans ces cas-là. Voilà, donc ça, c'est un premier volet, même si on s'aperçoit au fond que cette autogestion, finalement, elle abdique d'une certaine manière à la fin, que les ouvriers disent que c'est peut-être pas même ça, de prendre l'usine, c'est peut-être même pas ça la meilleure, finalement, forme de lutte politique possible, et que peut-être il faut abandonner, il faut cesser de travailler, tout simplement.
Ouais, c'est déjà le pressentiment de la disparition du travail, quoi.
Exactement. Et puis, 25 ans plus tard, Jorda reprend un certain nombre de personnages qui ont fait serment devant la caméra, donc à la fin du Numax Presenta, de ne plus jamais travailler. en tout cas plus, même dans le cadre d'une autogestion. Donc il revoit ces gens et puis il essaye de voir quel a été au fond leur parcours, leur engagement. Donc c'est quelqu'un qui dit, si vous voulez, que ne compte assez peu pour lui l'esthétique de l'image, des aspects formels, mais au contraire l'idée de dire que le cinéma est un outil politique au service des spectateurs, mais aussi au service de ceux qui veulent prendre cet outil en main. Donc ça me paraissait intéressant de mettre cette rétrospective, de rappeler que le cinéma peut être une arme, un outil, et en face, puisque vous avez évoqué Hartmut Bitomsky, de quelqu'un, un cinéaste allemand né après-guerre, qui au contraire, lui, considère que le cinéma, c'est d'abord une forme, et que la façon dont il aborde l'histoire ne peut pas se passer d'une réflexion formelle. Donc chez Bitomsky, si vous voulez, il y a également, comme chez Jorda, une attention particulière au monde industriel, mais Bitomsky le fait de façon, j'ai envie de dire, plus analytique, moins vitaliste. Et donc Bitomsky entremêle systématiquement, au fond, plusieurs thèmes. Il entremêle à la fois la guerre, l'industrie, l'histoire et le cinéma. On pourrait dire que ça, c'est les quatre points d'entrée qui en même temps se mélangent dans les films, et donc qui donnent des films très maîtrisés, très altiers, pour essayer d'embrasser des problèmes assez larges. Voilà. Et que je pense que pour les spectateurs, encore une fois, qui choisiront de bénéficier de cette chance unique d'avoir une rétrospective de Jorda ou une rétrospective de Bitomsky, je pense qu'il y a moyen de se fabriquer à soi-même des outils de réflexion et de compréhension du monde.
Alors, dans le catalogue du FID de cette 17e édition, c'est une citation d'Hartmut Bitomsky qui dit que le travail documentaire, c'est de dire oui au monde en même temps que lui opposer un non.
Ben oui, de dire oui au monde, c'est d'acquiescer à ce qu'il est, c'est-à-dire plutôt que d'en chercher un autre, comme on va dire pourrait faire la fiction, c'est-à-dire oui, je t'accompagne, je te regarde, c'est de toi qu'il s'agit. Et en même temps, non, si je te regarde, c'est pas pour te laisser tel que, c'est pour mon regard sur toi, mon oui va te modifier toi, va me modifier moi. Donc moi je me souviens de cette phrase qui m'a toujours ému d'Adorno, ce philosophe allemand qui parle de Mozart, et il dit il y a un quiproquo sur Mozart. Mozart, c'est quelqu'un qui est capté par une certaine classe bourgeoise qui va au théâtre, qui croit que la culture, finalement, c'est sa propriété, et qui est une espèce de oui de chansonnette, de oui d'innocence aux choses. Et Adorno dit le oui de Mozart, en fait, est un non aux puissances de la négation. C'est un double non. Et je pense que ce que dit Bitomsky, c'est quelque chose de pareil, hein, c'est-à-dire que l'acquiescement aux choses, c'est pas signer un chèque en blanc, c'est imaginer qu'il y a des rapports dialectiques aux choses et que y compris l'amour, le respect puisse être dialectique, puisse être une construction.
Sept films dans la rétrospective Hartmut Bitomsky, cinq films dans la rétrospective Joaquin Jorda. Je crois qu'à propos des films de Jorda, il y a eu des soucis de conservation des films. J'ai cru lire ça également dans le catalogue.
C'est une histoire effectivement complexe parce que, je vous dis, c'est la première rétrospective. Le MACBA a fait quelque chose, mais le Musée d'art contemporain de Barcelone, mais ce n'est pas un festival, et c'était plutôt dans le cadre d'un séminaire. Cela dit, je les remercie, et je remercie tout particulièrement Carles Guerra, qui a été un précieux collaborateur. Oui, il y avait des soucis de copie. Maintenant, on les a, les films. Alors.
Mais ils sont pas trop abîmés, alors, parce que les soucis de copie, abîmés.
Ouais. Non, c'est... On est toujours plus abîmés que les copies de films.
Surtout en fin de journée. Alors,
début de journée.
En début de journée aussi, vous trouvez. Oui. Alors, Emmanuel Burdeau n'est pas là, mais peut-être Cyril Nera ou Jean-Pierre Rem pour quelques mots sur Be With Me. L'écran parallèle.
Oui, je. Ça me paraît important. Cet écran en collaboration avec Emmanuel Burdeau. Donc, en quelques mots, je pense qu'il le dépliera beaucoup mieux que moi. Be With Me, c'est le titre d'un film d'Eric Kou qui est sorti en salle et qui a fait comme ça émotion au moment de sa sortie, parce que c'est un film qui avait une espèce de colonne vertébrale documentaire hein, autour d'un personnage d'une femme aveugle, pour revenir à Toutes les nuits de Cyril Nera, et dont la fonction principale de cette femme aveugle, c'était la traduction, c'était de traduire en braille, mais aussi d'apprendre les langues étrangères aux enfants. Et on s'est dit avec Emmanuel que cette idée très importante que le documentaire ou le cinéma, en tout cas un certain cinéma, mais puisse avoir à faire avec la traduction, passer d'une langue à une autre, et qu'on n'est pas justement dans le nez devant les choses. Hein. Il faut un non avec un oui, c'est ça aussi la traduction. Donc, on s'est dit qu'il nous paraissait important d'entremêler au cinéma documentaire tout un pan de cinéma de fiction. Parce que il y allait de la traduction d'une langue à une autre, et non pas pour ranimer les vieux débats. Est-ce qu'il y a plus ou moins de documentaires ici ou là? Est-ce qu'il y a plus ou moins de fiction? Rappelez que le cinéma documentaire, c'est du cinéma, et qu'il n'y a pas de cinéma de fiction intéressant s'il n'a pas, au fond, si du sang documentaire ne coule pas en lui. Et puis j'ai envie de dire tout simplement on avait envie, comme l'a rappelé Cyril Nera très justement à propos du film de Jonathan Demme, de que ça soit festif quoi, hein, que encore une fois que le documentaire qui est malheureusement ancré à sa croix de souffrance et de douleur chrétienne, on s'est dit que faire rentrer de la fiction, c'était un rappel au bonheur cinématographique, tout simplement.
Donc, Be With Me, la fiction allait avec le documentaire. On arrive au terme de cette émission. Je vous rappelle qu'on était avec Jean-Pierre Hem et Cyril Nera et qu'on parlait de la 17e édition du Festival International du Documentaire. Attendez, Jean-Pierre Hem, juste pour dire deux mots sur... Il se trouve qu'il y a plus de 120 films, je crois, cette année dans l'édition.
Oui.
L'année dernière, il y en avait 80. Et malgré ces 120 films, vous proposez en plus, au sein de la vidéothèque, de voir des films que vous avez reçus mais qui n'ont pas été sélectionnés.
Oui, mais ça fait 2 ans que ça existe. Effectivement, Marc, merci de le souligner. Encore une fois, il y a 2000 films en tout qui ont été visionnés et ont été retenus 30 en compétition internationale et nationale, pardon, comme vous l'avez rappelé. Certains aussi dans les écrans parallèles. Mais... Il y a des films de grande qualité hein, qui nous ont intéressés au comité de sélection, et qu'on a décidé, plutôt que de laisser dans l'oubli, d'en faire profiter les professionnels. Donc effectivement, il y a une quarantaine de films inédits qui sont proposés en vidéothèque.
Merci beaucoup Jean-Pierre M, Cyril
Merci
Nera.
À
bientôt sur l'antenne de La Grenouille. Je vous rappelle que Radio Grenouille sort en direct du festival à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi 11, avec plusieurs rendez-vous dans la journée. Aujourd'hui, ça sera à 13h10 et à 15h. 15h, ça sera la bande-son intégrale de Resonating Surfaces de Manon Debert qui sera présentée. À 18h, un magazine en direct de 18 à 19h. L'invité fil rouge de ce magazine, qui sera animé par Pascal Messaoudi, sera Gilles Grand, un auteur-compositeur de musique concrète et d'électronique, qui est rédacteur également au Cahier du cinéma et qui s'intéresse donc de très près aux bandes son. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt sur les 3-8. Salut.
It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.